en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet, Pauline Leduc,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Au centre de la Seine, une boîte rectangulaire qui figure une cellule. C'est là qu'est enfermé Moïse, un jeune migrant comorien, dont on sait dès le début qu'il a tué Bruce, le caïd du plus grand bidonville de France. Le grand suspense et le fil rouge du spectacle est de comprendre pourquoi et dans quelles circonstances. Nous sommes dans l'océan Indien, à Mayotte, le 101e département français, le plus pauvre aussi. Nous sommes au cœur d'une réalité sordide et en même temps au cœur d'un spectacle total qui mobilise comédiens et musiciens à travers une impressionnante scénographie. Alexandre Zeff met en scène Tropique de la violence, le livre de la romancière Natacha Apana. C'est jusqu'au 24 septembre à Paris, au Théâtre de la Cité Internationale. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Alexandre Zeff.
Bonjour.
Avant Natacha Apana, vous aviez mis en scène l'écrivain ivoirien Kofi Kwaoulé à deux reprises, hein, Big Shoot et Jazz, c'est ça?
Oui, trois même.
Trois même. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les écritures africaines?
Alors déjà, c'est pas l'écriture africaine, c'est la pièce, c'est l'œuvre. C'est pas, je cherche pas une écriture africaine du tout. D'ailleurs, Kofi Kwaoulé vit en France depuis des années et des années, et je crois qu'il se considère pas comme un écrivain d'un pays, mais de tous les pays. Il pense le monde au sens de la mondialité d'Edouard Glissant. Donc voilà, moi je cherche un texte, je cherche un auteur, une autrice, je cherche un récit et je cherche une matière qui peut se passer sur une scène et qui peut donner une dimension sur une scène.
Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans le livre de Natacha Apana et comment est-ce que vous l'avez découvert ?
Alors le livre de Natacha Apana, j'ai été à la recherche pendant plusieurs mois, après avoir travaillé sur l'œuvre de Kofi Kwaoulé. J'ai cherché justement un autre texte qui pouvait justement me donner une matière que j'avais commencé à découvrir avec le Kofi Kwaoulé et qui pouvait justement permettre de développer une esthétique. Et du coup, j'ai cherché pendant de longs mois et j'ai fini par rencontrer donc son livre. C'était en Grèce, sur une île en Grèce où j'ai lu ce roman et c'est vrai qu'il m'a bouleversé immédiatement et surtout j'ai vu que dans l'écriture il y avait une espèce d'évidence et je me suis dit c'est forcément déjà prévu, c'est déjà fait peut-être. Donc j'ai regardé sur internet s'il y avait déjà des productions théâtrales déjà prévues. Et j'ai pas vu, je me suis dit on était au mois d'août, donc je ne savais pas, je me suis dit je suis pas sûr que les éditions Gallimard, je vais pouvoir les joindre tout de suite. Et j'ai quand même commencé à travailler sur l'adaptation, parce que ça m'a paru une nécessité. Et à la fin du mois d'août, j'ai pu donc envoyer ma lettre, ma demande à l'autrice pour avoir les droits, et elle a eu la gentillesse d'accepter de me faire confiance.
Alors il faut dire que votre compagnie, donc la Camera Oscura, est très engagée sur les thématiques sociales et sociétales. C'est un petit peu dans l'ADN de ce que vous faites.
Oui, c'est vrai que ça c'est aussi venu par le travail et par l'existence. C'était pas une démarche initiale. J'ai commencé, donc moi j'ai été formé au Conservatoire National Supérieur de la Dramatique en tant qu'acteur, et puis j'ai commencé à faire des projets parce que j'avais envie de créer. Et les rencontres que j'ai fait avec les auteurs, avec les textes, effectivement, de plus en plus, m'ont semblé. J'avais besoin d'une dimension, d'une nécessité en fait à monter un texte. Et donc, oui, effectivement, cette dimension sociale, politique, me semble aujourd'hui un impératif en fait pour pouvoir créer, pour donner tellement d'énergie, tellement de temps, tellement aussi de financement, ça me semble indispensable en fait pour pouvoir légitimer le fait de faire venir des gens voir un spectacle en fait.
Donc c'est vraiment le texte, la matrice principale de votre projet. Est-ce que vous êtes allé vous-même à Mayotte? Est-ce que vous êtes allé sur place, là où se passe le récit?
Oui, j'ai eu la possibilité d'y aller plusieurs fois. J'y suis allé tardivement parce que le Covid a reculé mes possibilités pour y aller immédiatement. Effectivement, oui, j'y suis allé. J'ai rencontré beaucoup d'associations, des enfants qui vivent donc dans les bidonvilles. J'ai fait des rencontres incroyables, aussi violentes que bouleversantes, que lumineuses aussi. Donc oui, j'y suis allé, mais j'y suis allé pour me rendre compte d'une impression. J'y suis allé pour interviewer, puisque j'ai fait aussi le choix, puisque Natacha Apana a un passé de journaliste. J'avais envie, j'avais besoin, puisque j'y suis allé aussi avec celui qui joue Stéphane, l'humanitaire, pour voilà, pouvoir avoir aussi des images là-bas. Il me semblait important d'amener aussi du réel en fait dans la pièce parce que c'était la démarche de Natacha Apana. Il me semblait que moi, si je devais me mettre à son service, au service du roman, il fallait que je parcours aussi cette démarche.
Donc, et donc notamment au sein donc de ce bidonville que dans la pièce on appelle Gaza et dont le vrai nom c'est le bidonville de Kaweni, hein, c'est ça, je parle sous votre contrôle.
Oui, c'est Kaweni, c'est pas un bidonville, mais c'est sur les hauteurs de Kaweni. Ouais.
Voilà, qui abrite plus de 3000 mineurs isolés, hein, selon les statistiques que j'ai trouvées. Gaza, c'est un surnom qui vous semble particulièrement adapté à ce que vous avez vu.
C'est un surnom qui parle de lui-même et qui effectivement est très violent. Mais ce qui est vécu là-bas est très violent. Après, je ne vais pas juger. Il s'avère que c'est comme ça que ça a été surnommé. Donc je le prends en tant que tel et je pense qu'on parle surtout de souffrance. Et effectivement, il y a aussi de la souffrance dans ce territoire. Il y a aussi autre chose que de la souffrance. Hein. Il y a aussi des beautés et ça c'est important de le dire tout de suite parce que faut bien comprendre que là on est sur un angle de vue du roman qui parle effectivement des problématiques qui existent et de la violence qui existe. Mais évidemment, il ne faut surtout pas réduire l'île de Mayotte à cette violence. Il y a plein d'autres choses. Et vraiment là pour le coup, j'en suis témoin puisque j'y suis allé. Il y a aussi des gens et des beautés incroyables. Mais elle existe, cette violence. Et les problématiques, elles sont là et elles ont besoin d'être réglées parce que ça abîme. Ça abîme beaucoup et c'est vraiment dommage parce que c'est un territoire français, c'est le 101e département français. Et on voit bien que il y a des problématiques qui ne devraient pas exister.
Gaza, c'est un bidonville. Un ghetto. Un gouffre. Une favela. C'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert. Une énorme poubelle fumante que l'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land, des bandes de gamins shootés aux chimiques qui font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio. Gaza, c'est Mayotte. Gaza, c'est la France. Depuis le temps que ça gronde, cette onde destructrice, cette énergie brûlante qui vient d'on ne sait où. Ces morts dans le lagon qui vont se réveiller aujourd'hui et nous hurler à la face jusqu'à ce qu'on devienne fou.
Hassan Timbo, hein, qui joue Olivier, le policier mahorais dans Tropique de la violence que vous nous présentez, Alexandre Zeff, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Et parmi les autres acteurs, il y a Mexianu Medenu, qui incarne Bruce. Alors Bruce, c'est un peu le roi de Gaza, je crois d'ailleurs, qui se présente dans la pièce comme ça. Vous pouvez nous dire pourquoi on l'appelle Bruce ?
Bruce, alors c'est Bruce en fait.
Oui, Bruce, faut le dire à
l'américaine.
Oui.
Il s'identifie à Batman, Bruce Wayne, absolument. Donc voilà, il a vu un film un jour dans une association et il s'est identifié à ce personnage-là qu'il a détourné, puisque évidemment Bruce Wayne n'est pas un tyran. Donc il a, c'est dans sa façon de le comprendre, où, voilà, il a pris ce qui l'intéressait.
Et vous utilisez ça dans votre mise en scène. Il y a une scène particulièrement surprenante, particulièrement étonnante et même assez drôle. On n'en dira pas plus, mais ça permet aussi un peu au spectateur de respirer aussi un moment où le spectacle est parfois un peu prenant, un peu lourd, parce qu'il est vraiment question de violence. On va y revenir évidemment dans un instant. Justement, pour vous, Alexandre Zeff, Bruce, c'est un petit caïd ou c'est une vraie crapule?
C'est un enfant, d'abord. C'est un enfant qui souffre et qui essaye de s'inventer une existence, de sortir de son quotidien. Et donc, il va utiliser sa force, son énergie, effectivement, qui va être détournée. C'est un peu la ligne de fuite, la ligne de création dont parle Gilles Deleuze, qui se retourne contre lui et qui devient une ligne de mort. C'est-à-dire que il a des talents. Il a des talents, mais qui sont tellement contrariés, qu'il ne peut pas exprimer, que du coup, bah, il s'invente justement un monde de terreur puisqu'il en est prisonnier. Donc autant qu'il en devienne le maître. C'est une manière aussi de transcender son existence.
Et Bruce va mener la vie dure à Moïse, un jeune homme qui, quand il était bébé, a réussi à fuir l'archipel des Comores vers ce qui, de l'extérieur, pouvait ressembler à une sorte d'Eldorado français.
Si tu savais le nombre de choses qu'on apprend d'une personne rien qu'à la regarder tranquillement. T'as attendu à l'ombre. Tu ne supportes pas le soleil, ta maman t'a protégé toute ta vie. Hein ? Crème solaire et tout et tout. T'es allé pisser au Caribou Café, t'as pris là-bas un pain au chocolat, et t'as donné la moitié à ton chien! J'ai su alors quel genre de gars t'étais. Le genre aveugle à la misère, qui va en vacances, qui a la clim dans sa chambre, qui a les poubelles qui débordent. Le genre qui n'a jamais connu la faim, qui ne sait pas d'où il vient. Le genre qui a oublié qu'il est noir. Tu sais, Mo, faut pas croire tout ce que tu vois. Faut pas croire que je valais rien. Va pas croire toutes ces conneries sur les mineurs isolés, comme disent les gens des associations et des ONG. Ils comprennent jamais rien, ces gens-là. Je suis né ici, moi. De tous les gars, je suis le seul vrai Mahorai. J'ai mes papiers, demandez-moi lequel. J'ai tout. Acte de naissance, carte d'identité. J'ai même un passeport République française. J'ai pas honte de dire que je suis un descendant d'esclaves. Je passe pas mon temps à chialer comme toi, à me demander pourquoi moi, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait.
Alexandre Joseph, Bruce et Moïse sont noirs, tous les deux, hein, ils le disent, mais pour Bruce, c'est pas du tout la même chose, être noir.
Pour Bruce, non, dans le sens où, effectivement, il est jaloux, en fait, de Moïse, qui, pour lui, a eu une existence... protégé et donc il remet ça sur effectivement le fait que ce soit Marie, donc interprétée par Mia Delmae, qui s'en est occupée, donc c'est une infirmière jusqu'à l'âge de 15 ans, donc il a été pour lui en tous les cas protégé, nourri, choyé, et donc il en est jaloux, donc il va utiliser tout ce qu'il peut pour l'attaquer, y compris donc son enfance.
Alors, faut peut-être recadrer un petit peu Alexandre Joseph, parce que des Comoriens à Mayotte, il y en a beaucoup, mais ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les Mahorais, ils sont pas les bienvenus. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a toute l'histoire, en fait, coloniale, de l'archipel des Comores qui continue de peser dans ce département français.
La situation, elle est très complexe, effectivement, là-bas, parce que voilà, c'est une archipel, donc à partir de là, c'était quatre îles, et Mayotte est restée française. Donc effectivement, il y a un conflit, parce que les Comores, c'est assez difficile là-bas économiquement, donc forcément ça crée des difficultés et une envie tout simplement de chercher des possibilités et une vie meilleure, comme je pense il est humain en fait de réagir. Donc forcément à 70 km, il y a peut-être, en tous les cas on imagine qu'il y a peut-être d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Et donc ça crée des conflits, mais c'est un conflit. La géopolitique est très complexe.
Oui, d'ailleurs, Mayotte est toujours revendiquée par l'archipel des Comores.
Absolument. Bah oui.
Ah voilà. Oui. Et c'est quoi ça. Donc c'est ces petites barques, oui. Embarcations qui arrivent chargées de migrants comoriens viennent pour les Mahorais, en tout cas, rajouter de la pauvreté à la pauvreté.
C'est je pense pas que ça soit tous les Mahorais, mais en tous les cas certainement une partie, comme partout dans le monde, il y a des gens qui se referment et d'autres qui essayent de comprendre et essayent d'aider. Je pense que je veux pas en tous les cas moi faire de généralité parce que je ne suis pas légitime à ça, mais en tous les cas ce qui est certain c'est qu'il y a une problématique qui est du coup sous la responsabilité de la France, puisque Mayotte est le 101e département français, et qui n'est pas traité. En tout cas, qu'on laisse, justement, sans solution. Donc, forcément, à un moment donné, ça gangrène. Et c'est là où, évidemment, les gens commencent à régler leurs comptes par eux-mêmes, puisque rien n'est fait, qu'effectivement, il y a des difficultés, ça crée des conflits, ça pourrit, en fait. Et donc de la violence, oui.
J'écoute les chauves-souris dans les airs,
Je m'imagine comme elle déployer mes ailes, tête à l'envers. J'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, que là je suis fatigué, il fait trop chaud chez mon père. Nous sommes tous agglutinés, je comprends pas les noms propres et les noms qui sont pas propres. Pas assez d'intelligence, disent les maîtresses fines et blanches. Un matin, mon robe croate, c'est pour ma rentrée qu'il a rendez-vous. Et avant même d'y aller, il est fier et tout. Mais le directeur dit, il n'est pas fait pour le collège, il n'a pas sa place ici. Il donne le nom d'une école spécialisée pour enfants en grande difficulté. Il dit, Ismaël sera mieux là-bas. Mon père se tourne vers moi, il me fait face. Et dans ses yeux, quelque chose se casse. Histoire d'un caïd. Je m'appelle Ismaël Saïd. Une nuit dans une asso, ils nous font voir Batman de tes filles. Je comprends alors qui je suis, Bruce Wayne. Sa voix, son style, son flow, sa haine. Je sens venir en moi, je veux une cape, être le roi. J'ai 10 ans, 11 ans, je vois un peu de fric dans le sac de ma sœur pour choper du chimique. Mon père m'attache à une chaise bien serrée et toute la famille se réunit pour me gifler. Ça me fait plus rien, plus Ismaël Saïd, mais Bruce Caïd. 14 ans, 15 ans et dans la rue, j'attends tous les jours, je fume, je bois. Quand on n'a pas assez de blé pour les putes, avec les gars on vole des chèvres pour les fourrer, c'est pas pareil mais ça calme, tu vois. La nuit je vole, je traque, King Boost c'est légendaire, ils flippent tous quand je les braque. Je suis comment, qui voler, je sais qui vend, qui peut acheter, je peux rire quand je veux, je fais gazin en feu. T'as vu, quand y a des élections comme ils se demandent tous, où est le gros Bruce? Bruce, 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 Bruce.
Ismaël Saïd, alias Bruce Wayne, donc, et c'est Mexianum Edenum, hein, qui rappe ainsi sur la scène du théâtre Alexandre Zeff. Elle est naturellement musicale, la langue de Natacha Apana, elle porte en elle ce flot revendicatif qu'on entend sur le plateau.
Absolument. Moi, c'est ce que j'ai repéré quand j'ai découvert le roman. C'est ce qui m'a tout de suite inspiré. J'ai senti que la langue était musicale, qu'il y avait vraiment une langue, en fait, qui pouvait s'incarner. Voilà, ça m'a fait penser à Coltès, ça m'a fait penser aussi à Wajdi Mouawad, ça m'a fait voilà, je sentais bien qu'il y avait là un roman, mais aussi une écriture qui était vraiment pour moi une évidence sur une scène, ouais.
Mais alors justement là, ce qu'on a entendu là dans cet extrait de rap, ce sont les mots mêmes de Natacha Apana. Vous avez retravaillé le texte, comment vous avez procédé?
Alors là, vraiment pour le rap, j'ai simplement fait rimer développer un petit peu la musique. Mais c'est vraiment le seul passage pour le coup que j'ai un tout petit peu articulé différemment pour que ça puisse rimer. Mais tous les sens restent ceux de Natacha Apana.
Oui, bien
Natacha
sûr, parce qu'il y a la question de la rime. Bien sûr. Question du rythme du aussi, rythme. Et ça c'est très important sur une scène.
Absolument, et le rythme, comme je vous l'ai dit, dans l'écriture même, et particulièrement justement sur le personnage de Bruce, il est déjà là, il est déjà, d'ailleurs c'est déjà une adresse à Moïse, donc c'est déjà en fait des adresses qui sont, c'est déjà écrit pour du théâtre, puisque Bruce s'adresse directement à Moïse dans le roman. C'est ce qui fait la force incroyable de ce roman, et son incroyable matière pour la scène, c'est que vraiment il y a 5 donc personnages principaux et ces 5 ont une langue qui diffère et du coup ça crée vraiment 5 identités, 5 rapports au monde, 5 visions d'une situation commune, donc de l'histoire de Moïse et c'est ce qui fait voilà la friction entre cette langue donc de l'autrice et les variations qu'elle a réussi à faire à l'intérieur pour vraiment donner une identité à chacun des personnages.
Et bien justement, exemple avec le policier qu'on entendait tout à l'heure, nouvel extrait.
Chaque matin, quand je rentre d'une nuit au poste, je me tiens immobile dans ce jardin. Et j'ai l'impression de prendre racine. Je pense à Moïse. Je pense à Bruce. Tout à coup me vient cette pensée insoutenable. Ils se ressemblent. On dit qu'ici tout le monde est cousin et que le sang qui coule dans l'océan entre dans le sable. La terre nourrit les rivières et les plantations. Je regarde mes fleurs. Sont-elles si épanouies parce qu'elles se nourrissent de chair ? Sont-elles si colorées parce qu'elles se gorgent de sang ? Avant que je devienne fou, que les fleurs ne se transforment en mains, les branches sans bras, les troncs en corps, je frappe ce rouge. J'écrase le blanc velouté. J'assomme le jaune soleil.
Donc il y a à la fois Alexandre Zeff là. La force des mots de Natasha Appana, cette beauté, cette puissance qui est à la fois onirique et poétique aussi. Comment est-ce que vous avez travaillé avec vos différents comédiens pour faire ressentir sur un plateau de théâtre la force de ces mots dans cette polyphonie, puisqu'on le répète, effectivement, il y a cinq personnages dans ce spectacle.
D'abord, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entouré, d'avoir des acteurs et une actrice brillante, vraiment. Ça, c'est, je dirais. La base du travail, c'est-à-dire que ils ont eux-mêmes leur musicalité. Mia Delmaé est elle-même chanteuse, musicienne. Donc c'est elle-même qui a composé ses parties musicales. Donc elle a mis aussi d'elle-même de sa création à l'intérieur de sa langue, de son rapport à la langue. Et j'ai fait ça avec chacun à leurs endroits, c'est-à-dire que Hassan Timbo, par exemple, lui aussi, il a sa musique. Après moi, c'est simplement j'essaye de les guider pour essayer de trouver un équilibre commun. Mexianou Menenou, c'est pareil, il a sa puissance, sa son intelligence, sa sensibilité, son rythme aussi intérieur. En fait, c'est ça. Moi, je suis à l'écoute du battement cardiaque.
Donc, c'est un travail de plateau d'abord.
Un travail de plateau, c'est-à-dire que moi, bon, évidemment, dans l'écriture, enfin dans l'adaptation, j'avais aussi un rythme interne qui est le mien pour le coup. Après, la question, c'est simplement justement, c'est de leur proposer déjà une écriture qui a déjà une musicalité et ensuite qui se l'approprie. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'échange avec Alexis Tieno qui joue donc Moïse. Lui aussi, c'est un tout jeune acteur qui sort de l'école et qui est vraiment brillant. Et lui aussi, c'était passionnant d'être à son écoute pour voir en fait le voir naître petit à petit justement au plateau et de découvrir presque ensemble en fait son battement cardiaque, sa musicalité, son rapport à la langue. Et moi, simplement, mon rôle, il est de le faire grandir en fait et de les faire grandir. Voilà, moi c'est la confiance qu'ils m'ont fait. Simplement, ils amènent une matière humaine, sensible, et mon regard, c'est simplement pour les révéler encore davantage, pour les mettre en valeur, en fait.
Et quelle liberté est-ce que vous êtes autorisé par rapport au texte originel de Natasha Appana? Parce qu'entre un texte écrit dans un roman et un texte sur un plateau de théâtre, il peut y avoir une marge.
Oui, c'est vrai, mais je...
Parce que parfois, on a plus l'impression d'entendre des vers que de la prose.
Mais sincèrement, c'est l'écriture de Natasha Appana. Hein. C'est vraiment sa langue que simplement j'ai enlevé les descriptions. C'est comme si j'ai fait un travail d'épuration. J'ai épuré un petit peu l'ensemble parce qu'effectivement, elle décrivait des espaces, des décors. Moi, je les montre au plateau quelque part. Je les suggère. Donc, j'en ai pas besoin, disons. Donc, j'ai enlevé ça. J'ai gardé ce qui m'a semblé être l'essentiel aussi par rapport à la fiction, c'est-à-dire au rythme, parce que c'est vrai qu'on a souhaité être dans un rythme assez intense qui se rapproche du thriller. Ça, c'est vraiment un choix qui est déjà dans le roman, mais qui effectivement, vu qu'on est dans un temps qui est différent, eh bien moi je l'ai recentré en fait sur cette intensité-là, parce qu'effectivement moi j'en ai besoin au plateau, et puis surtout ça me permet de créer d'autres, une autre écriture à l'intérieur de l'écriture, mais qui est au service de l'écriture. C'est ça un peu mon
projet. Voilà, parce qu'on est à la fois donc dans un spectacle très polyphonique, on le disait, et en même temps complètement pluridisciplinaire, hein, parce que il y a du jeu de théâtre, du jeu de texte, il y a de la musique live, il y a de la danse, il y a tout un jeu de lumière et de couleurs aussi. Il y a tout ce qu'apporte la vidéo aussi, hein, avec ces images qui apparaissent sur des tulles comme autant d'écrans comme ça devant les spectateurs, parfois devant les acteurs en bord de scène, parfois à l'arrière, à l'arrière-plan. On est vraiment dans un spectacle total. L'idée, c'est que tout se complète, c'est d'exposer successivement ou en même temps les différentes formes de la violence.
Alors c'est surtout que là, je suis dans une recherche artistique, c'est-à-dire que vous avez dit de transdisciplinarité, effectivement.
Ça aussi, c'est l'ADN de votre compagnie.
Ça, c'est l'ADN de la compagnie, effectivement, mais c'est pareil, ça s'est fait en fabriquant. C'est pas une idée de départ.
Oui, c'est pas un principe. C'est pas un principe. C'est au juste, service.
Voilà. Et si vous voulez, c'est ça qui c'est en travaillant depuis plusieurs années maintenant que je me suis rendu compte que j'avais envie de me servir de tout ce qui était possible dans l'art, en fait, pour servir un texte, un propos, un acteur. Et donc oui, je continue à développer cette pratique. De trans art comme ça, où j'essaye de vraiment, il ne s'agit pas de justement avoir un petit morceau de danse, un petit morceau de musique, comme voilà, non, c'est de faire travailler ensemble la musique, la danse, la vidéo, le chant, tout ce qui est tout ce dont on peut disposer, et aussi les vibrations de notre monde aujourd'hui, effectivement, tout est mêlé, tout est tressé. Et c'est vrai que cette justement c'est cette vision dont on peut parler dans l'idée d'une créolité, en fait, de l'art, en fait, c'est-à-dire de que tout ça se métisse, voilà, on pourrait dire ça exactement, se métisse pour créer quelque chose de nouveau.
Oui, donc c'est-à-dire que l'idée de la musique, des écrans, des couleurs, des lumières, ça peut être parfois de suggérer des émotions, parfois de souligner ces émotions, parfois de compléter le texte.
C'est effectivement une écriture qui permet de transcender un élément. C'est-à-dire que, effectivement, on a un mot, on a une phrase. Comment on peut lui donner toute son ampleur? Comment on peut la faire ressentir plus loin qu'à l'habitude?
Moi, c'est ça. Le point de départ, c'est toujours le texte.
Le point de départ, l'inspiration, c'est le texte, bien sûr. C'est l'origine. Mais qui dit texte dit pas forcément mot. Dit ça peut, parce qu'on est bien d'accord que quand on se parle, il y a bien de choses qui se jouent en dehors de ce qu'on dit. Donc par les silences, mais pas seulement, par les gestes, par nos regards, par nos sensations, par notre énergie. Pour moi, ça, c'est de l'écriture aussi. C'est ça dont je me sers. Quand je prolonge un mot par un long solo de batterie là que Damien Barcelona interprète pendant plusieurs... je ne veux pas tout dire, mais voilà. Pour moi, ça continue à écrire. C'est à l'intérieur de l'écriture. Donc si vous voulez, c'est pour développer, en fait. C'est comme si on essayait de faire apparaître ce qu'il y a entre les lignes. C'est l'avantage, en fait, de la création, que ça soit au théâtre ou au cinéma, c'est d'arriver, quand on prend un texte, en tout cas écrit, ou même des pièces de théâtre, c'est le travail pour moi, en tous les cas, du metteur en scène ou de la metteuse en scène, c'est justement de faire apparaître ce qui est au-dessus et en dessous de l'écriture. Ce qui est dit est dit, tout le monde l'entend. Donc le travail, c'est pas ça, c'est pas juste de faire entendre ce qui est dit. C'est justement de montrer toute l'épaisseur et la profondeur, donc la violence et aussi la beauté. Donc voilà, c'est ça mon travail.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le metteur en scène Alexandre Zeff qui adapte et qui met en scène Tropique de la violence, le texte de Natacha Apana en ce moment au Théâtre de la Cité Internationale, la Cité Universitaire dans le 14e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 24 septembre 2021 évidemment. Alors vous parliez à l'instant, Alexandre Zeff, de ce contraste qu'il pouvait y avoir entre les mots et ce que l'on peut voir sur scène. Par exemple, il y a des images sous-marines qui sont absolument magnifiques, images sous-marines du lagon, vous les avez prises vous-même avec une équipe, oui?
Tout à fait. Non, alors j'ai pas avec une équipe,
vous-même,
tout seul.
Personnellement, voilà, vous êtes parti avec une caméra, vous êtes plongeur aussi.
Je suis plongeur. Enfin, je peux retenir ma respiration sous l'eau suffisamment pour faire un plan. Oui.
Voilà. Donc, on a effectivement des images de lagons absolument magnifiques qui viennent là pour le coup à l'appui du texte, parce que Natacha Appanah rend aussi hommage aux beautés naturelles de l'île de Mayotte. Donc, un lagon magnifique et non loin de là, juste à la surface, des violences absolument effroyables. Ce contraste saisissant, il a beaucoup marqué un autre personnage important du récit, Stéphane, ce travailleur humanitaire qui est incarné sur scène et à l'écran, puisqu'il vous a accompagné à Mayotte, vous le disiez tout à l'heure, par Thomas Durand.
Tout le monde t'en parle et, mystérieusement, tu te crois à l'abri. Tu lis des articles à propos des agressions sexuelles d'une extrême violence qui sont commises par ces jeunes garçons sous l'emprise de cette nouvelle drogue, le chimique, et tu dis « Putain, c'est chaud !» Mais ça ne t'atteint pas là où ça devrait t'atteindre. On te demande si tu as été sur l'îlot de sable blanc et tu racontes cette merveilleuse journée de plongée dans le plus beau lagon du monde, car maintenant tu le sais. C'est le plus beau lagon du monde. Puisque de tes yeux tu l'as vu, ce monde émeraude et opalin. Et même si tu sais que des centaines de personnes meurent dans ce lagon-là, tu le dis quand même. Oh, c'est le plus beau lagon du monde. On te chuchote que la moitié des habitants de Mayotte est constituée de clandestins, que tous les équipements de l'île ont été conçus pour 200 000 habitants, mais qu'officieusement, il y aurait plus de 400 000 personnes sur l'île. Et tu dis, mais c'est pas possible, ça va exploser. Et cette phrase a été prononcée des milliers de fois avant toi. On te dit, ne téléphone pas dans la rue, ne va pas seul au distributeur, ne porte pas de sac en bandoulière, mais tu continues à vivre et à te croire à l'abri, car tu as été à l'abri les 34 premières années de ta vie. Tu ne connais que ça.
Il tombe de haut, hein, Stéphane, hein, Alexandre Zeff, quand il arrive sur place à Mayotte. Est-ce qu'on pourrait dire que son personnage, c'est le regard du blanc, le regard du riche, le regard du nord sur une situation d'un territoire du sud?
C'est un peu réducteur comme vision, évidemment. En tous les cas, Thomas, enfin le personnage de Stéphane, il vient pour essayer d'aider, mais effectivement il est confronté à une situation qui le dépasse, mais dont on peut pas justement régler tout seul. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les associations que j'ai pu rencontrer, comme le Royaume des Fleurs, la Vigie, qui se démènent pour essayer d'agir, mais ils sont bien seuls. Il y a peu de moyens, très peu de moyens, anormalement peu de moyens.
On est dans un département français. On est dans un département français,
des milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école.
Il y a tout un système de protection sociale.
C'est ça, normalement un enfant, il doit aller à l'école, d'ailleurs, qu'il soit français ou pas. Là, non seulement ils n'y vont pas tous, mais les mamans que j'ai pu rencontrer dans les bidonvilles me montraient la carte d'identité de leur enfant pour dire, voilà, pourquoi il ne va pas à l'école? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Bon. Je veux dire, voilà, quand on est confronté à ça, y a un malaise profond. Moi, c'est très violent, hein, à ressentir ça, parce que l'impuissance dans laquelle, justement, moi, je me trouve, je veux faire un projet, je veux parler de Mayotte, je veux parler d'une situation, je veux transmettre. Bon, voilà, c'est mon intention. Maintenant, la réalité, je m'y suis donc, je l'ai regardé, et est-ce que agir, faire un spectacle, être chez vous ce soir sur votre antenne, va vraiment pouvoir aider? Évidemment, je l'espère, mais je me rends bien compte du peu d'effet que ça pourrait représenter par rapport à la nécessité dont ils ont besoin. Et j'espère que, c'est impératif qu'on ne ferme plus les yeux, qu'on ne ferme pas les yeux et qu'on vienne de façon urgente à l'aide de ces enfants, de ces associations, et surtout qu'on crée des structures. Il n'y a pas de théâtre, par exemple, à Mayotte. Donc, sur un département français, il n'y a pas d'espace. Or, la population, 50% ont moins de 18 ans. Donc, ils n'ont pas d'endroit pour s'exprimer. Et après, on s'étonne de la violence. Et la seule solution, c'est effectivement de repousser les frontières. Je veux dire, il y a quelque chose qui est absurde en fait.
Est-ce que vous avez l'intention d'aller malgré tout, même s'il n'y a pas de théâtre, aller présenter la pièce sur place, là-bas, à Mayotte?
Je l'aimerais, parce que cette pièce, enfin ce roman, il fait débat là-bas, évidemment, puisque la problématique, on la connaît, bien sûr. On a cette présentation de la violence, on n'a pas envie de réduire personne, un département, en plus, comme je vous l'ai dit dès le départ, qui est bien sûr plein d'autres choses. Et on parle que de la violence, bien sûr, mais parce que c'est ça qui ressort, c'est ça qui... Évidemment qu'il faut aussi laisser la parole, justement. Moi, je suis là pour en parler de comme je le peux par rapport à un travail, mais bien sûr, ça serait aussi aux Mahorais de s'exprimer. Moi, ce qui me semble important, c'est que j'espère en tout cas que mon travail, il peut faire simplement le pont, que justement, que ça peut permettre à ceux qui sont les principaux concernés de s'exprimer, d'être visibles. Voilà, et ça, j'en ai très fortement conscience, et c'est pour ça que j'essaye à travers le spectacle d'être précautionneux par rapport à cette dimension-là, parce que j'en ai très totalement conscience, et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs en même temps que le spectacle une exposition avec aussi des parties où justement j'ai fait des interviews, j'ai donné la parole justement à ces intervenants, je vous ai dit, la Royaume des Fleurs, à Willy, j'ai rencontré ses enfants, je fais ce que je peux à mon endroit. Parce que je pense que c'est nécessaire et je suis très fier de faire ce projet-là parce que je pense que cette visibilité-là, bah, faut mieux au moins quelque chose que rien du tout. Maintenant, j'ai bien conscience que c'est absolument insuffisant et j'espère être simplement un petit caillou qui pourra créer un chemin. Voilà, c'est simplement ça que je souhaite essayer de proposer.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Jérusalem, c'est une chanson, une magnifique chanson, absolument superbe, que je ne connaissais pas et que vous m'avez fait découvrir grâce à votre spectacle, Alexandre Zeff. Pourquoi l'avez-vous choisi?
Parce que quand je suis arrivé justement la première fois à Mayotte, on est venu me chercher donc à la sortie de la barge, et j'ai tout de suite Anne-Laure Mouchette qui était professeur là-bas pendant un an au lycée de Nord de Kaweni, est venue me chercher, et on a tout de suite été, il y avait eu l'AMAN, c'est une association anti-violence, un mouvement anti-violence là-bas, et donc qui justement autour de Kaweni, qui faisait une action et qui faisait danser les enfants. Et donc je suis arrivé, il y a eu cette chanson. Et donc moi j'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allé danser avec eux en fait sur cette chanson, parce que je me suis dit qu'il fallait que j'étais là pour les rencontrer. Donc j'y suis allé immédiatement, je veux dire, au bout de 10 minutes, j'étais en train de danser avec eux sur cette chanson. Et voilà. Et Et c'est vrai que voilà, ça restera toujours pour moi un moment de ma vie, quoi, parce qu'il y a eu cette avant que j'arrive à Mayotte, il y avait tout ça, et justement les fantasmes par rapport à. Et puis il y a eu la réalité de la rencontre et ces moments d'amour, parce que sincèrement, il y a cette violence bien sûr, et il y a eu des moments vraiment des relations qui se sont tissées. Courte, mais extrêmement intense.
Alors, la violence, elle est effectivement présente. Et quand on est dans le spectacle, Alessandro Joseph, on a parfois l'impression de la salle, de voir de véritables tableaux. Est-ce que pour vous, être un metteur en scène, c'est aussi être un plasticien?
Oui. Je pense qu'un metteur en scène, enfin, pour moi, après, il y a plein de manières de faire de la création. Mais pour moi, ça doit, bien sûr, ce qu'on regarde, est essentiel. On doit être pour moi en tout cas, ça doit être quelque chose de, effectivement, vous avez dit, de total, au sens où, en tous les cas, moi j'aime la peinture, j'aime être absorbé, comme effectivement la sensation qu'on peut avoir au cinéma, c'est un peu cette sensation là hypnotique que je recherche. Donc pour moi, elle doit passer par tous les éléments. C'est aussi pour ça que j'en ai besoin, hein. C'est-à-dire le son, la vidéo, avec qui j'ai travaillé, avec Muriel Abrard.
L'eau aussi, parce qu'il y a l'eau aussi, hein, sur la scène.
Il y a l'eau qui est un élément justement organique, qui est aussi un élément qui est nécessaire, je pense, justement pour donner de la chair au plateau, parce que voilà, on utilise la vidéo, très bien, mais attention, mon objectif c'est de faire un spectacle vivant, donc avec de fait de chair, de sang, de sueur, et donc voilà, c'était important pour moi, en tout cas par rapport à votre question. Oui, je conçois un spectacle, je pense un peu mon travail comme avec l'exigence du peintre, c'est-à-dire que j'essaye en tous les cas de ne laisser aucun élément sur le plateau, alors justement à ce hasard. Alors je sais qu'il y a un courant artistique, enfin dans les spectacles, où sur la justement le spectateur, la liberté du regard, de pouvoir regarder, voilà. Bon, alors mon travail, c'est pas celui-là. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de proposer justement une atmosphère totale, et après de demander au spectateur, enfin en tout cas de lui proposer de se laisser pénétrer, et à partir de là, à l'intérieur, il le vivra à sa façon, et donc il a bien sûr beaucoup de liberté en réalité. Pour moi, c'est l'inverse. Quand je vais voir un spectacle justement où j'ai pas de regard, moi je pense à autre chose. Donc là, l'idée, c'est que justement on soit plongé et qu'on n'en ressorte pas avant la fin.
Voilà. Merci beaucoup, Alessandro Joseph. Tropique de la violence, d'après Natacha Apana, c'est jusqu'au 24 septembre au Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
Merci.
E para o mundo não gerar as avessas, o negro que sou, inclusive em alma, custou forçar um navio. Pois muitos dormem temendo o escuro, crucifixa o colo quase absurdo, os que ainda acordam vivos dão graças. Sentem-se pagados à flor da raça. Sentem-se pagados à flor da raça. À flor da raça. À
Negro Kessoul ou La Pena dans VMDN sur RFI. Allez, on prend la direction de Lisbonne au Portugal avant de se quitter à l'occasion du festival Todos qui s'intéresse à la diversité. Todos, ça veut dire tous, tout simplement. Cette année, le festival s'est implanté en banlieue, dans des quartiers défavorisés où vivent notamment des immigrés venus du Cap-Vert, d'Angola, de Guinée ou encore de Sao Tomé. Des quartiers souvent laissés là aussi à l'écart de l'animation culturelle. Reportage de notre correspondante Marilyn Darcy.
Desde que me mudei para Londres, voltei a ter as minhas crises. Choro bastante depois do trabalho. E dá-me vontade de pôr fim à vida. Estou sozinha.
Dès mon arrivée, j'ai eu à nouveau des crises. Je pleure beaucoup après le travail. J'ai envie d'en finir. Je suis seule. Inès est l'une des interprètes de la pièce « À l'abri de la distance ». Elle est sortie de scène pour investir les rues de Santa Clara à la périphérie de Lisbonne. Une pièce où il est question du déracinement provoqué par l'immigration. Rui Falcão, metteur en scène.
Le point de départ, ce sont des témoignages bruts, recueillis par un journaliste bissau-guinéen, Madiou Furtado. Je ne voulais rien qui soit étranger à la vie des gens dont on parle. Celui qui fait les interviews de nos personnages est lui-même un déraciné. Il appartient à la diaspora africaine.
Les avions qui décollent dans ce quartier, parfois appelé les Hauts de Lisbonne, ponctuent les propos de Rui Falcão sur la diaspora africaine. Il a construit sa dramaturgie sur des biographies.
Les histoires sont celles des gens qui, pour des raisons diverses, sont séparés de leurs parents. Soit parce que la mère et le père avaient une relation superficielle au moment de leur naissance, ou le père avait d'autres familles. Elles sont depuis toujours complètement écartelées. L'absence du père influence l'éducation. C'est un point commun à toutes les histoires.
Abandon scolaire, violence, drogue à Santa Clara, les jeunes manquent de repères. Pour les quatre jeunes acteurs africains qui incarnent ces vies d'immigrés, les histoires qu'ils racontent ont des accents familiers. Santa Clara, banlieue dortoir, possède une population mixte de blancs issus de l'exode rural, d'africains des anciennes colonies et de tziganes sédentarisés. L'offre culturelle y est pauvre. Le festival Todos est chargé d'y remédier. Miguel Abreu, directeur du festival.
On a travaillé surtout au cœur de Lisbonne, auprès des Lisboètes, pour qu'ils découvrent l'autre, quelle que soit l'origine de cet autre. Dans le contexte d'une démographie en net recul, selon les statistiques sur une natalité en berne, Lisbonne et le Portugal ne survivront qu'avec les immigrés qui viennent y vivre. Ceux qui ne veulent pas voir ça et insistent sur la nécessité de faire des bébés portugais se trompent lourdement. On est suffisamment nombreux sur Terre. Il faut qu'on s'entende.
Ça va être absurde, non ? Parce qu'il y a gente à mais no mundo et temos que nous entender.
La belle voix de la bissau-guinéenne Eneida Marta, le chant tzigane et jazzy de Diego Elgavi, celui du rappeur Estra, que vont se faire entendre à Santa Clara. Todos, le festival interculturel, amènera poésie, danse, cirque et repas partagés pour lutter contre le désert culturel dans les arts.
No corazón y un sonno sentido mi sti giunta, ma destino ca giunto na ujo di ginti da ma bendiado na sociedad. Alguien diritto su me yago, na revesita vida babus.
Reportage de Marilyn Darcy à Lisbonne. Félicitations à nos gagnants du jeu d'hier. Audrey Anelka Mukeba de Lubumbashi en RDC, Seini Gaïfofana d'Abidjan en Côte d'Ivoire et Jamal Hamouda d'Alger. Ils recevront tous les trois le livre de Cécile Coulon, Seul en sa demeure, paru aux éditions de l'Iconoclaste. La réponse à la question était dans l'église. Dans un instant, le journal, le point complet de l'actualité internationale sur RFI. On se retrouve demain avec le rappeur Soprano, rappeur d'origine comorienne d'ailleurs, pour son album Chasseur d'étoiles, et vous m'en direz des nouvelles.